Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Troisième volet d'entretien avec vous, Serge Abad-Gaillardeau. Bonjour Serge.
Bonjour.
Je rappelle que vous venez d'écrire ce troisième livre paru récemment aux éditions Pierre Tecky, intitulé « Fin de vie » et en sous-titre « Les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir ». Quelques chapitres dans ce petit livre qui résume bien un peu tout le travail maçonnique, idéologique pour faire passer différentes lois. Et entre autres, on va s'arrêter encore cette semaine aujourd'hui, autour de l'euthanasie. Alors pourquoi combattre l'euthanasie? C'est l'un de vos chapitres.
Eh bien, d'abord ouvrage. Parce que, contrairement à ce que voudrait affirmer la franc-maçonnerie, l'euthanasie n'est pas un acte charitable. Elle tente dans divers écrits ou par diverses manœuvres de nous faire croire que c'est par charité, finalement, qu'on mettrait fin à une vie. Mais je ne vois pas de quelle charité il pourrait s'agir dans la mesure où la souffrance est largement prise en compte aujourd'hui dans pratiquement 100% des cas.
Et là, vous faites référence à l'accompagnement des soins palliatifs.
Exactement, exactement. Et que la véritable réponse à apporter, et ce que je vous dis est confirmé par un médecin, le docteur Claire Fourcade, qui officie à Narbonne et qui est une des personnes pionnières en matière de soins palliatifs, la réponse à apporter à la question de la fin de vie, ça n'est pas de supprimer le malade, c'est de l'accompagner et de l'aider, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons les moyens, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine spirituel, dans le domaine psychologique, voire personnel, d'accompagner les personnes jusqu'à ce dernier instant finalement que nous allons tous vivre un jour ou l'autre.
Et vous savez de quoi vous parlez, puisque depuis 6 ans, vous participez donc à une aumônerie et vous accompagnez vous-même des personnes en fin de vie.
Absolument, depuis 6 ans j'accompagne des personnes qui sont en fin de vie et comme je vous l'ai dit, non seulement j'ai vécu de véritables histoires d'amour et je continue de les vivre, mais les personnes qui sont dans ces conditions-là ont besoin avant tout d'être aimé.
Alors vous, Serge, vous permettez, c'est une manière, en écrivant ce livre et en dénonçant aussi certaines manipulations un peu des loges maçonniques, de défendre jusqu'au bout cette vie.
Mais oui, j'ai écrit ce livre pour informer les lecteurs qui n'ont pas conscience de ce qui se joue actuellement. C'est un combat spirituel extrêmement important que nous avons à mener et je souhaiterais qu'il puisse être mené en pleine connaissance de cause. Si demain une personne en pleine connaissance de cause choisit l'euthanasie, c'est son droit. Si elle choisit d'aller s'exiler pour mourir, on ne peut pas enlever la liberté à qui que ce soit. Mais encore faut-il que cette liberté ne soit pas faussée par des manœuvres qui sont secrètes, des manœuvres qui interviennent au niveau politique, au plus haut niveau politique même, sans que les électeurs se doutent de quelque manière que ce soit de l'influence de la franc-maçonnerie dans ce domaine.
Et ça vient d'une ignorance, d'une méconnaissance de la franc-maçonnerie ? Vous avez
ça
une réponse,
vient d'une méconnaissance qui est largement entretenue par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une société qui est secrète, même si de la plupart des dignitaires préfèrent le terme de discret à celui de secret. Je me propose d'écrire prochainement un livre sur ce thème où j'expliquerai un peu mieux la différence entre discret et secret. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie agit. Qui connaît exactement le poids de la franc-maçonnerie?
Aujourd'hui, la franc-maçonnerie propose aussi des portes ouvertes, donc elle est peut-être moins secrète aujourd'hui au grand public.
Est-ce que les gens qui vont dans ces conférences maçonniques où on leur explique que la maçonnerie est la solution pour le bonheur de l'humanité, est-ce que les gens qui vont visiter des loges maçonniques ont vraiment conscience de ce qui se passe dans les rituels maçonniques?
Alors voilà. Si je vous pose la question, mon fils de 17-18 ans m'a invité, car lui-même était invité, pour participer à ces portes ouvertes.
Une des caractéristiques du secret de la franc-maçonnerie, c'est son caractère de séduction. Il ne faut pas s'y tromper. On connaît un personnage qui a été un séducteur. Et ce que j'explique dans mon précédent livre, on va le retrouver aujourd'hui, dans celui sur la fin de vie. Tu ne tueras point. Est-ce que c'est un précepte divin ou diabolique? C'est Dieu qui nous dit tu ne tueras point. Le démon, c'est un acteur de la mort. tout simplement. La fin de vie, il ne s'agit pas de prolonger une vie dans ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. Lorsque c'est le moment, c'est le moment. Mais ça, ce moment-là, seul Dieu le connaît. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Et ce que voudrait la franc-maçonnerie à travers la légalisation de l'euthanasie, c'est avant tout permettre à chaque individu de se libérer de Dieu en exerçant un choix autonome. Là est finalement la cachette du diable.
Et c'est ce que vous souhaitez et que vous voulez dénoncer aujourd'hui, avec votre expérience aussi de près de 20 ans d'ancien franc-maçon. C'est ce que l'on peut entendre, Serge ?
Oui, j'aimerais que l'on sache exactement discerner ce qu'il y a derrière le terme de charité.
Alors pour discerner, il faut connaître aussi et discerner quel est le combat et comprendre ce combat.
Bien entendu, ce combat est un combat entre Lucifer et Dieu, tout simplement. Et aujourd'hui, il me semble que l'humanité est placée devant un choix. Suivre Dieu ou suivre Lucifer ?
Je rappelle que vous avez écrit aussi un deuxième livre, paru toujours aux éditions Pierre Tecky, « Je servais Lucifer ». Ce Lucifer aujourd'hui se présente bien souvent dans notre monde et notre société, si vous permettez, comme un ange de lumière, très séduisant, donc parfois très difficile de discerner où est le bien du mal. Et quel est le mal et quel est ce bien aujourd'hui dont on parle ?
Mais vous avez entièrement raison, puisque un des éléments essentiels de la doctrine maçonnique est le relativisme. Donc, finalement, donner la mort à quelqu'un, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Quand on est dans le relativisme, on ne sait plus si c'est bien ou c'est mal. Mais si on se réfère à la morale divine, on sait très bien que ça ne peut pas être un bien de tuer, en aucune manière. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de laisser intervenir la mort de manière naturelle parce que la vie est terminée et que aller contre cette vie qui se termine serait une obstination déraisonnable. On ne peut pas être contre le fait qu'on doive laisser intervenir la mort. Mais il y a une différence entre laisser mourir et faire mourir.
Vous écrivez page 118 de ce dernier ouvrage, « Fin de vie, les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir ». La mort pour les francs-maçons n'est donc qu'une transformation en une nouvelle vie. Alors expliquez-nous, Serge.
Alors tout d'abord, le point de vue de la franc-maçonnerie n'est pas complètement monolithique, mais on peut le résumer un petit peu à cette phrase-là. Lorsque un franc-maçon décède, il rejoint, selon la terminologie maçonnique, l'Orient éternel, c'est-à-dire qu'il rejoint le grand tout. Et il y a un dogme maçonnique, et je parle de dogme en connaissance de cause, hein, même si la franc-maçonnerie refuse de reconnaître qu'elle a des dogmes, un des dogmes de la franc-maçonnerie, c'est de dire que finalement le microcosme et le macrocosme sont de même nature, c'est-à-dire que la divinité et l'individu sont de même nature. C'est complètement antinomique avec notre conception de la création, telle que nous la connaissons, puisque nous ne sommes, nous, qu'à l'image de Dieu. Pour un catholique ou un chrétien au sens large, la mort n'est que le passage qui finalement lui permet de rejoindre l'autre monde dans lequel se trouve Dieu, c'est-à-dire le monde invisible. Pour un franc-maçon, c'est un éternel recommencement, puisque dans la doctrine maçonnique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est Lavoisier qui l'a dit, qui était lui-même franc-maçon. Donc il traduit dans le langage, dans la terminologie scientifique, un concept maçonnique. Donc effectivement, il n'y a pas en franc-maçonnerie de Dieu personnel qui soit à l'origine d'une création, et je dis ça même s'agissant des loges qui sont déistes, puisque le grand architecte de l'univers, qui est la divinité maçonnique, n'est absolument pas le Dieu personnel que nous connaissons.
Alors, en résumé, et puis pour ceux qui vous découvrent cette semaine et dans ce troisième entretien au cœur de cette semaine, un franc-maçon ne peut pas être catholique, c'est incompatible.
Absolument pas. Quelle que soit l'obédience ou le rituel dont il s'agit, il est clair que l'Église n'a pas changé d'un iota sa position depuis 3 siècles, ça n'est pas rien, et je crois le démontrer également et le confirmer dans mes conférences et dans mes livres. Il n'y a pas d'ailleurs d'obédience chrétienne. C'est un homme que j'ai rencontré, qui est un auteur également, nous l'explique, c'est une imposture. On ne peut pas être chrétien et franc-maçon, et on ne peut pas encore moins être catholique et franc-maçon.
Et donc, si on est catholique, bon catholique, avec les bons dogmes de l'Église catholique, on ne peut pas valider l'acte de l'euthanasie.
Mais il me semble que non. Il me semble que non, sauf si on se trouve dans l'erreur.
Merci pour ces rencontres, pour un éclairage simple, mais en vérité, avec des faits posés. Et puis un ouvrage qui peut aussi éclairer certaines personnes sur cette fin de vie, cette euthanasie, et puis cette idéologie qui circule aujourd'hui dans le monde politique, un peu partout, cette idéologie maçonnique bien répandue. Serge Abad-Gaillardeau, à demain à la même heure.